Ensuite, notre fidèle allié, la Russie soviétique, pactisa avec Hitler. Ce fut la guerre, déclarée par l'Angleterre et la France. L'armistice, l'occupation, plus de 2 millions de prisonniers, montoir. En mai 1941, Doriot explique pourquoi la France doit rester une puissance européenne et coloniale. Ce congrès du Parti populaire français se termine au chant de la Marseillaise et de France libère-toi.
Cependant, le problème le plus important à résoudre si nous voulions avoir la paix, ce que nous n'avons pas fait lorsque nous étions victorieux, il semble que l'Allemagne est en train de le faire. À deux reprises, depuis l'armistice, Hitler nous a tendu la main. À Montoire d'abord, lorsque le maréchal a rencontré le chancelier, puis à Berchtesgaden, lorsque le Führer a reçu Darlan. En conscience, je dois dire que la position politique que prend l'Allemagne en 1940 et en 1941 est infiniment plus juste que la position politique que nous avons prise en 1919. On dit que le génie est une longue patience. C'est vrai, parce que la première tentative s'était traduite par un demi-échec. Il s'était produit le coup malencontreux du 13 décembre, interprété en Allemagne comme un refus de la politique de collaboration, expliqué à Vichy comme une opération de politique intérieure. Or, l'Allemagne a insisté. Allons-nous encore refuser d'entrer dans une voie qui est la condition de notre redressement? Pour nous, hommes du Parti populaire français, ce n'est pas une nouveauté de s'engager dans cette voie. Nous voulions qu'on s'y engage avant la guerre. Au congrès de la région parisienne, j'ai fait la démonstration complète de nos efforts pour obtenir l'ouverture de négociations avec l'Allemagne de la part de nos gouvernants. Je n'y reviendrai pas, je ne referai pas cette démonstration, mais elle est facile à comprendre. Le PPF s'était formé en 1936, l'adversaire traditionnel du traité de Versailles. Communistes qui quittaient leur parti parce qu'ils devenaient tout à coup partisans de la Société des Nations et du traité de Versailles qu'ils avaient combattu pendant 15 ans. Nationalistes qui s'étaient séparés des tendances anti-germaniques de leurs mouvements respectifs, sans parti qui comprenait qu'une politique traditionnelle d'hostilité avec nos voisins nous conduisait à la guerre. Nous trouvions le traité de 1919 incompatible avec le maintien de la paix, pour reprendre le mot de Bainville, trop dur dans ce qu'il avait de mou, trop mou dans ce qu'il avait de dur. Depuis la défaite, l'Allemagne nous donne d'autres exemples. Elle recherche la collaboration. J'y reviens, j'y insiste. C'est d'abord Montoire. Et malgré les difficultés rencontrées du côté français, Hitler fait un second effort. L'entrevue d'Arlan-Hitler, après cet incident, atteste la volonté du Führer d'établir des rapports normaux avec notre pays. Alors les sceptiques disent, oh mais oui, mais c'est qu'il a besoin de nous pour faire la guerre. Imbéciles heureux, qui montrant, je crois, directement au ciel, voyons la réalité. Hitler pouvait agir autrement. La victoire lui donne des droits que nous ne pouvons pas lui contester. Il pourrait en user et même en abuser. S'il fait l'inverse, c'est parce que contrairement à nos politiciens de 1919, il a la conviction que l'Europe ne sera équilibrée et pacifiée que si la France lui apporte une adhésion librement consentie. L'Europe de 1919 n'a pas vécu 20 ans parce que l'Allemagne y était maltraitée et que la plupart des autres pays étaient des constructions de l'esprit et non pas des réalités historiques. L'Europe de 1941 aurait le même sort si la France y entrait, mutilée, contrainte, forcée. L'intérêt de l'Allemagne est d'obtenir l'adhésion de la France pour la reconstruction européenne. L'intérêt de la France est de donner son adhésion à l'ordre nouveau. Le maréchal Pétain l'a parfaitement compris, puisqu'à Montoire, et le 15 mai, il l'a proclamé en termes formels et pathétiques. L'enjeu de cette entente avec l'Allemagne, il nous l'a indiqué d'un mot, la France pourra surmonter sa défaite et conserver dans le monde son rang de puissance européenne et coloniale, a dit le 15 mai notre guide. Notre adhésion à l'ordre nouveau comporte donc des perspectives encourageantes. Elle comporte des avantages importants et immédiats. Vous les connaissez, c'est l'assouplissement de la ligne de démarcation qui à la longue brisait l'unité morale du pays et aurait fini par briser son unité matérielle. C'est l'ouverture de la zone interdite, zone d'opération militaire. Et derrière cette ouverture, les espérances qu'elle comporte pour nos départements du Nord et du Pas-de-Calais, ce sont les premiers accords économiques, ceux de l'automobile par exemple, qui ouvrent des perspectives encourageantes pour l'industrie et la classe ouvrière. Ce sont enfin nos frères d'armes de l'autre guerre, les prisonniers combattants de la guerre 1914-1918, qui vont rejoindre leur foyer. Notre ami Claude Jeantet, l'autre jour dans le Petit Parisien, disait que c'était un fait unique dans l'histoire. Lorsque l'on veut écouter les Anglais, c'est que leurs maîtres n'ont plus confiance dans le destin de leur propre pays. Ils avouent eux-mêmes que sans les États-Unis, ils sont incapables de vaincre. Toutes leurs espérances sont subordonnées à l'aide de l'Amérique. Mais ils paient cette aide par l'abandon de nombreuses positions clés qu'ils possédaient dans le monde. Ils ont cédé déjà leur base maritime à l'Amérique, dans le Pacifique, dans l'Amérique du Sud, dans l'océan Indien. Ils abandonnent peu à peu leur ligne maritime aux États-Unis. Leurs industries de guerre aux États-Unis sont devenues propriétés américaines. Le Canada leur échappe peu à peu pour passer sous la domination militaire, maritime, industrielle, financière des États-Unis. Les États-Unis prolongent la guerre par leurs encouragements, mais en attendant, dans cette phase de la guerre, ils en profitent. Ils aident l'Angleterre avec un râteau comme le croupier le perdant à la table de jeu. Voyons les objections. Certains se méfient encore de l'ennemi héréditaire. Et le souvenir de notre histoire depuis 1870 les empêche de se rappeler que l'Angleterre fut notre ennemi ouvertement pendant des siècles et le resta secrètement toujours. Ils oublient aussi qu'elle l'est redevenue sans marque depuis Merseyside. Ce sont sans doute ces gens qui osaient crier quelle douloureuse aberration l'autre jour devant la statue de Jeanne d'Arc, vive l'Angleterre. D'autres, parce qu'ils appartenaient justement à l'ordre économique anglo-saxon, ne veulent pas se faire à l'idée que le libéralisme économique est mort, que cette forme de capitalisme est condamnée à disparaître. D'autres suivent les anglophiles parce que M. Achard n'honore pas les tickets ou que l'occupation les gêne. Mais ils oublient le blocus. Ils oublient M. Achard, ils oublient les intendants militaires et le blocus intérieur. Ils oublient tout dans leur volonté d'être anglophiles. Et à cause de toutes ces raisons accumulées, ils font la politique de l'autruche. Ils se cachent la tête pour ne pas voir. Ils ne veulent pas comprendre les choses essentielles. Si nous sommes français, nous sommes aussi européens. Hier, c'était l'Angleterre qui dirigeait l'Europe à sa manière. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui propose de s'unir contre elle. Il faut l'accepter ou il faut disparaître. Nous vivons en Europe, nous ne vivons pas dans la Lune. Les questions de sentiment n'ont rien à voir à la question. Le maréchal Pétain s'est penché sur le problème social. Il a prononcé des paroles qui sont allées droit au cœur de la classe ouvrière. Enfin, un homme d'État s'occupe de la classe ouvrière. La réalisation de la retraite des vieux, cette promesse des autres, comme il l'a dit spirituellement, malgré ses défauts facilement corrigibles, est un acte qui démontre sa volonté d'aboutir à des résultats. Par cet acte, il a apporté aux vieux ouvriers rejetés de la production le réconfort de leurs vieux jours qu'ils attendaient depuis des années de la promesse des politiciens. Du même ordre est la sollicitude qu'il a manifestée à l'égard des familles ouvrières. La reconnaissance du 1er mai comme fête légale est un acte purement symbolique. Il signifie tout de même que pour la première fois, l'État français reconnaît qu'il y a un problème social et qu'il convient de s'en occuper. Le problème social n'est plus un délit, un crime de lèse-majesté, de lèse-capitalisme. S'occuper du problème social est devenu une fonction normale et permanente de l'État. Nous travaillons pour que nos enfants ne connaissent pas les discordes et les misères de notre époque. Notre récompense suprême sera le jugement des générations qui nous suivent. Lorsque nos fils jugeront l'œuvre des bâtisseurs de la France et de l'Europe nouvelle, je voudrais qu'ils puissent dire avec fierté, mon père, il en était.
Après le débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, le maréchal, dans son célèbre message au président Roosevelt, affirme « La France et son honneur sont en jeu. Nous sommes attaqués. Nous nous défendrons. C'est l'ordre que je donne. » Beaucoup le croient. Nos soldats, nos marins, nos aviateurs se font tuer. Un peu plus tard, Doriot, qui revient du front de l'Est, y croit aussi. Il prononce le discours passionné d'un Français qui entend sonner le glas de la France impériale.
La France avait promis de défendre son empire. Elle ne l'a pas fait. Elle peut dire qu'elle a été trahie, mais par cela même, elle a trahi les engagements solennels qu'elle avait pris devant le monde. L'honneur du peuple français a été sauvé par le sacrifice de quelques milliers de ses humbles fils. Mais la parole de la France a été compromise et bafouée par l'attitude honteuse des chefs. Nous étions un peuple grand et vénéré. Et aujourd'hui, quand un Français donnera sa parole d'honneur, à cause de cela, personne ne voudra plus le croire dans le monde. Ah, vraiment, il faut du sang pour réparer, changer, etc.
ceci est le passé. Voyons pour le présent et voyons pour l'avenir. Depuis 15 jours, les États-Unis nous font officiellement la guerre. Depuis 28 mois, l'Angleterre nous fait la guerre. Mais la France n'a pas encore déclaré la guerre à l'Angleterre ni aux États-Unis. Le jour de l'invasion de l'Afrique du Nord, le chancelier Hitler a proposé, par un télégramme historique, le combat coude à coude à la France. À la seule condition que nous soyons officiellement en guerre avec l'Amérique et l'Angleterre. Des ministres français m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu connaissance de cette offre spontanée du chancelier Hitler. Ils m'ont dit que s'ils l'avaient connu, ils auraient été prêts à souscrire sur le champ et sans réserve à toutes les propositions du chancelier Hitler. Au moment même où le chancelier faisait cette proposition, des dizaines de milliers de Parisiens réclamaient spontanément l'alliance avec l'Allemagne dans la rue. Cette proposition correspondait non seulement au sentiment de certains ministres laissés dans l'ignorance, mais aussi à celle du peuple français le plus actif, le plus généreux, le plus combatif. Pourquoi faut-il que les uns et les autres ne l'aient pas connu et qu'on ait laissé passer 8 jours avant de communiquer le document au Conseil des ministres? Pourquoi cette entente n'a-t-elle pas été immédiatement conclue? Je vous le jure, et si nous avions été quelques-uns au pouvoir, mais dans la seconde, nous avions répondu oui aux propositions du Conseil des ministres.
De 1943, Doriot parle à Bordeaux. C'est toujours la paix qui le hante. Il craint que la France ne devienne une seconde Pologne, que les Allemands ne passent à des représailles systématiques. Enfin, il s'est trouvé en face des énormes masses militaires soviétiques. Il craint pour l'Europe, pour l'avenir.
Parce que j'ai été soldat dans cette guerre encore, je songe aux millions et demi de mes camarades qui sont en Allemagne. Et je ne veux pas faire un geste pour les y laisser une minute de trop. Je veux au contraire faire tous les gestes pour qu'ils reviennent tous et toutes les têtes de côté. Enfin, un homme d'État français a pu publier à Paris une déclaration destinée aux Américains de M. Pierre Labat. Dans cette déclaration, il a évoqué un problème, celui de l'Alsace et de la Lorraine. Et il l'a évoqué sous une forme émouvante et originale. L'Alsace et la Lorraine sont comme deux enfants dont les parents seraient séparés, et qui passent tantôt sous la tutelle du père, tantôt sous la tutelle de la mère. Cependant, ils sont devenus majeurs. Ils ont venu quitter définitivement. Conflit franco-allemand, il faut trouver un statut spécial pour ces deux provinces.
Est-ce que la politique de collaboration n'est pas une politique à sens unique et au profit d'un seul, mais que si nous la pratiquons avec fermeté, avec courage, nous avons peut-être quelques chances d'en terminer une fois pour toutes avec le conflit qui a opposé nos deux pays. Je veux faire appel ici à vous tous, aux pères, aux mères. Croyez-vous que si deux hommes d'État, l'un allemand, l'autre français, apportaient un règlement définitif de la question franco-allemande, cela ne vaudrait pas mieux que de reprendre dans 25 ans les armes pour essayer d'arracher à nouveau un lambeau de territoire? Nous nous sommes presque tous trop vieux pour participer à la troisième guerre franco-allemande de revanche. Mais regardons derrière nous. Il y a nos enfants. Le problème franco-allemand, je veux le régler tout de suite. Si je laisse l'opportunité de le faire, je suis un imbécile, un être méprisable, parce que je lègue aux générations futures encore le drame, encore le crime, encore la guerre. Je ne veux pas que toujours la France soit poussée dans cette voie. Il y a certes des oppositions profondes à cette politique. Des raisons historiques, j'en ai fait justice tout à l'heure. Puis il y a les sites-vents. Les sites-vents de la Troisième République. Ceux qui n'ont rien appris. Ceux qui n'ont rien oublié. Ceux dont la seule espérance est de vouloir que ça revienne comme avant. Bien, c'est justement parce qu'il reste encore tellement de gens de cette catégorie qui ne comprennent pas. Il faut que la France fasse un grand tournant historique, que nous voulons la révolution nationale. Qu'est-ce que c'était que la Troisième République? Dans sa dernière forme de 1936, à la date où la guerre a été déclarée, c'était un mélange de communisme, de franc-maçonnerie, de juifs et de plutocrates. M. Torres représentait le communisme, M. Blum et M. Mandel représentaient la juiverie sous ces deux espèces. M. Paul Reynaud représentait la plutocratie. M. Camille Chautemps et M. Sarraud représentaient la franc-maçonnerie.
Le 18 août 1943, des étendards frappés aux armes de nos provinces les plus menacées, l'Alsace, la Lorraine, le comté de Nice, la Corse, la Savoie, l'Algérie, flottent en tête du défilé de 30 000 gardes françaises du PPF qui, venant du Veldiv, descendent l'avenue des Champs-Élysées et se rassemblent rue et place des Pyramides.
Et maintenant, le défilé a commencé d'abord par les Champs-Élysées, il se poursuivra par la rue Royale, par les Grands Boulevards, par la rue de l'Opéra et la rue des Pyramides. Pour vous donner une idée de son importance, de cette Légion bleue qui a déferlé à travers les rues de la capitale, et bien penser qu'à la Concorde, nous avions vu depuis longtemps passer la tête du défilé, qu'au fond, là-bas, près de l'Arc de Triomphe, nous pouvions voir encore scintiller des tamines, des drapeaux, et voir la masse des hommes qui s'étaient à peine ébranlés. En tête du défilé, le général Durand, héros, puisqu'il a à son cou la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, et sur la poitrine, la croix de guerre, avec des palmes qui marquent le nombre de ses citations. Derrière lui, les drapeaux politiques du parti, le bureau politique, le service d'ordre, les drapeaux des provinces, dont tout à l'heure nous apercevons la masse multicolore, la LDS, la NSKK, l'organisation TOT, et derrière, les régiments de gardes français. Des milliers d'hommes, admirablement encadrés, qui défilent dans un ordre impeccable, témoignant ainsi de leur force. Et Jacques Doriot, qui a été très acclamé, rentre maintenant dans la maison du parti. Dans un instant, il apparaîtra au balcon.
Nous voyons ici associés des légionnaires qui ont combattu sur le front de l'Est. Et qui portent sur leur chemise bleue la médaille de l'Est de cet hiver si rigoureux. D'autres qui portent encore l'uniforme, d'autres des organisations top, d'autres qui portent la chemise bleue de nos provinces et de nos militants de toutes les régions. Ainsi se trouvent associés, côte à côte, tous les hommes qui veulent collaborer à la régénération de la France et qui surtout ne veulent pas que Staline mette un jour ses sales pattes sur notre magnifique pays. En
1936, j'ai lancé le signal d'alarme dans ce pays. Et j'ai trouvé autour de moi des militants que je retrouve aujourd'hui avec une grande joie. N'avions-nous pas raison de dire que la France et que l'Europe étaient menacées par cet infernal danger? Les gens intelligents et sensés le comprennent, mais combien de fous vont mettre leur tête sous le couperet? Eh bien, contre eux, nous lutterons pour les arracher à leur abominable illusion qu'il ne sera pas dit que la France périra. Nous sommes ici, à côté, une statue, la statue de la plus folle de Jeanne d'Arc, qui un jour a poussé les Anglais hors de ce pays. Associés aux autres peuples de l'Europe, nous empêcherons le bolchevisme de triompher. Vive l'Europe! Vive la France éternelle! C'est fait, elle battra!
De Doriot à Dubček et de Saint-Denis à Prague, en passant par Belgrade, Bucarest, Budapest, la route est longue, aussi périlleuse que celle de Constance à la petite ville de Mengen, où Doriot trouva la mort.